J'aime beaucoup les histoires. Et mes préférées, c'est les histoires qui finissent bien. Je sais pas, je suis d'un naturel optimiste ou peut-être je suis sensible. Moi, j'aime les histoires qui finissent bien. Et cet après-midi, on va partager ensemble une histoire. Ce n'est pas un conte, hein. L'histoire, c'est un récit. L'histoire est réelle. Et elle semble mal se terminer. Et pourtant, elle s'est terminée de la meilleure des façons. Elle ne pouvait pas mieux se terminer. Donc, c'est une histoire qui est à la fois terrible, mais en même temps qui est merveilleuse, pleine d'espoir, pleine d'amour, pleine de perspectives merveilleuses. On trouve cette histoire dans l'évangile de Jean. Jean chapitre 19 et verset 14. Jean 19, 14. Alors on ne va pas lire toute l'histoire, hein, on va en lire la conclusion, mais vous allez voir de quoi il s'agit. C'était le jour de la préparation de la Pâque. Il était environ midi. Pilate dit aux Juifs, voici votre roi. Ils s'écrièrent alors. À mort! À mort! Crucifie-le! Pilate leur dit, dois-je crucifier votre roi? Les chefs des prêtres répondirent, nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Ils prirent donc Jésus et l'emmenèrent. Jésus, portant sa croix, sortit de la ville pour aller vers l'endroit appelé le crâne, qui se dit en hébreu, Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et avec lui deux autres, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Amen. Elle est terrible, cette histoire. Il est question de la mort d'un homme. Il est question d'une mort par crucifixion. À mort, crucifie-le. Ce Jésus devait être quelqu'un de terrible. Il avait dû faire des choses affreuses pour qu'une foule entière, s'adressant à Pilate, lui demande sa crucifixion à grands cris. Ils s'écrièrent alors, à mort, crucifie-le! Peut-être était-il un meurtrier. Peut-être avait-il tué beaucoup de gens. Peut-être avait-il tué des enfants, je ne sais pas. Mais il avait dû faire des choses terribles, impardonnables, pour qu'une foule entière puisse faire cette demande. Crucifie, crucifie-le, à mort. Et chose encore plus troublante, c'est que Pilate le présente aux Juifs comme étant leur roi. Voici votre roi. C'est une scène étrange, non? Ce sont les sujets qui crucifient leur roi. Ce sont les sujets qui mettent leur roi à mort. Alors la France a connu cela, hein. Au temps de la Révolution. À mort, crucifie-le. Mais ces gens ne demandent pas la démocratie. Ils préfèrent l'empereur, en fait. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Comprenons bien qu'il s'agit de juifs qui s'adressent à un gouverneur romain, qu'il s'agit de juifs qui sont sous la domination, sous l'occupation romaine. Et voici qu'un roi qui est des leurs, qui est juif comme eux, il préfère l'empereur romain, il préfère César Tibère, il préfère l'occupant, l'envahisseur. C'est étonnant tout cela. C'est vraiment étonnant. Et voici que la crucifixion, que le calvaire est la conclusion pour Jésus d'un long chemin, d'un long parcours de souffrance et d'humiliation. Et je vous propose de reparcourir ce chemin ensemble. Tout d'abord, Jésus est arrêté dans le jardin de Gethsémané. Et il est conduit chez Caïphe, le grand prêtre, où se trouvent les anciens, les chefs des prêtres, les spécialistes de la loi. Et Jésus va se présenter à ces hommes, à ces religieux, comme étant le Fils de l'homme. Quelqu'un qui se présente comme étant le Fils de l'homme, est-ce que ça vous choque? Eux, ils ont été profondément choqués parce qu'ils connaissent la Bible et ils savent que le Fils de l'homme, c'est le Fils de Dieu. Ils savent que Jésus, en disant cela, il leur dit, le Messie, c'est moi. Celui que vous attendez pour être délivré, c'est moi. Je suis le Fils de l'homme, je suis le Fils de Dieu, je suis votre roi. Je suis le roi du ciel et de la terre. Ils connaissent les textes de Daniel, des psaumes, où il est dit que le Fils de l'homme est celui qui vient pour régner, où il est dit que le Fils de l'homme est réellement le Messie. Leur conclusion, parce qu'ils refusent de croire ce que Jésus leur annonce, ils disent, ils méritent la mort pour ce blasphème. Tel est leur verdict, telle est leur condamnation. Mais ils sont confrontés à un problème. C'est qu'ils sont sous occupation romaine et qu'ils n'ont pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ce pouvoir est réservé aux autorités romaines. Ils méritent la mort. Et tout de suite après cette déclaration terrible, cette condamnation simplement par rapport à une affirmation que leur fait Jésus, Matthieu 26, 67, là-dessus ils lui crachèrent au visage et le frappèrent à coups de poing. Certains lui donnaient des gifles en disant, Christ, prophétise-nous qui t'a frappé. Quelle méchanceté! Quelle cruauté! Il se moque de Jésus, il se moque de lui, il lui donne des coups de poing, certaines traductions ajoutent, il lui donne aussi des gifles. Faisant cela, ils accomplissent malgré eux les paroles prophétiques du livre d'Ésaïe. Ésaïe a été rédigé quelques 700 ans avant que tout cela se produise, et j'ai relevé le passage. Eh bien, qui annonce à l'avance ce qui est en train de vivre Jésus. Ésaïe chapitre 50, verset 6, « J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. » C'est terrible ce que cet homme, ce Jésus, ce roi des Juifs, ce Fils de l'homme, est en train de vivre, et ce n'est pas fini. Comme je voulais annoncer, ils n'ont pas le droit, pas le pouvoir de condamner Jésus à mort. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils conduisent Jésus devant Pilate, le gouverneur romain de la Judée. Parce que comme ça, ils vont pouvoir lui demander cette condamnation à mort. Mais voici que Pilate ne trouve pas de raison de condamner Jésus. Pour être condamné à mort, quand même, il faut avoir fait des choses graves. On ne peut pas condamner à mort comme cela. Et Pilate ne trouve pas de motif de le condamner. Mais à cause de l'insistance des religieux juifs, à cause de l'insistance de toute la foule qui est là, il ne sait pas trop que faire, Pilate. Il est bien embêté. Alors voilà qu'il l'envoie à Hérode Antipas. Hérode Antipas, c'est celui qui a fait décapiter Jean-Baptiste. Il est l'administrateur de la Galilée et de la Pérée. Et Jésus étant galiléen, eh bien, il est censé relever de son autorité. Alors, Pilate, il se débarrasse du sujet embarrassant dont il ne sait pas trop que faire. Ah ben super, je vais l'envoyer à Hérode et lui il va s'en débrouiller, lui il va trouver une solution, il va faire quelque chose, comme ça c'est pas moi qui m'en occupe, c'est très bien. Luc chapitre 23 verset 8. lorsque Hérode vit Jésus, il en eut une grande joie. Car depuis longtemps, il désirait le voir à cause de tout ce qu'il avait entendu dire de lui. Et il espérait le voir faire un signe miraculeux. Il lui posa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Hérode a entendu parler de Jésus, pas comme quelqu'un de meurtrier, de violent, de terrible. Non, il a entendu parler de Jésus comme quelqu'un qui fait des miracles, qui guérit les lépreux, les paralytiques, qui rend la vue aux aveugles, qui pardonne les péchés, qui chasse les démons, qui aime, qui passe du temps avec le peuple, qui va manger chez les uns, chez les autres. Voilà ce qu'a entendu Hérode. Et il éprouve une grande joie de le voir parce qu'il se dit, mais enfin, voilà l'homme dont j'entends parler partout, celui qui ressuscite les morts. Et je vais voir de mes yeux ce que mes oreilles ont entendu. Et je vais le voir faire quelques miracles devant moi. Comme ça va être bien. Un spectacle pour moi tout seul. Pour moi tout seul. Mais Jésus ne lui répondit rien. Jésus ne va pas ouvrir la bouche devant Hérode. Alors vous pensez bien que s'il n'a pas daigné lui parler, il n'a pas accompli de miracle devant ses yeux aussi. Alors que fait Hérode ? Eh bien Hérode va le traiter avec mépris. Hérode va le traiter avec mépris. Comme ceux qui exigent de voir un miracle pour croire et qui sont déçus. Est-ce que vous avez déjà rencontré des gens aussi? Parce que des gens qui ont la même attitude et la même réaction qu'Hérode, mais ça existe encore aujourd'hui. Moi, j'ai demandé à Jésus telle chose. Cela ne s'est pas produit. Je lui ai demandé un miracle et je ne l'ai pas vu. Il n'existe pas, ce Jésus. C'est un imposteur. Ce n'est pas vrai que c'est le Fils de Dieu. Ce que j'ai entendu dire de lui, finalement, c'était que des histoires. Il a refusé le miracle que je lui ai demandé. Moi, je lui ai demandé de faire cette chose et il ne l'a pas faite. Avec mépris. Hérode va le traiter avec mépris. J'ai relevé ce passage, Luc 23, 11. Alors Hérode, avec ses gardes, le traita avec mépris et se moqua de lui. Puis après lui avoir mis un habit magnifique, il le renvoya à Pilate. Hérode ne le trouve pas coupable malgré tout. Alors il le... Rien qui mérite la mort en lui. Alors il le renvoie. Et puis il y a encore un palier qui va être franchi dans l'humiliation et dans la douleur pour Jésus. Comme si ce n'était pas suffisant déjà tout ce qu'il venait de subir, ce par quoi il vient de passer. Pilate, livrant Jésus à la crucifixion, va le faire fouetter. C'est quelque chose de très douloureux, paraît-il, se faire fouetter, parce que ça, hein, y a les terminaisons nerveuses dans le dos, là, et c'est très douloureux. Jean 19, 2, les soldats tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et lui mirent un manteau de couleur pourpre. Tout le monde humilie et frappe Jésus. Les prêtres juifs, Hérode, Pilate, les soldats romains, la foule, tous en parole ou en acte, humilient et font souffrir Jésus. Mais c'est à Pilate que revient le pouvoir, enfin le dernier mot en tout cas, c'est à Pilate que revient le dernier mot de sa condamnation. Matthieu 27, 11, Jésus comparut devant le gouverneur. Celui-ci l'interrogea, « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit, « Tu le dis. » Mais il ne répondit rien aux accusations des chefs des prêtres et des anciens. Alors Pilate lui dit, « N'entends-tu pas tous ces témoignages qu'ils portent contre toi ?» Mais Jésus ne répondit sur aucun point, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. Le gouverneur était habitué à avoir devant lui des accusés, des hommes, eh bien, qui se défendaient, qui produisaient des témoins, qui argumentaient pour dire mais je suis innocent de ce dont on m'accuse. Ce n'est pas moi, c'est pas vrai. Jésus, lui, comme devant Hérode, il n'ouvre pas la bouche. Il ne répond sur aucun point, nous dit l'évangéliste Matthieu. En fait, le silence de Jésus, là encore, il accomplit une prophétie d'Ésaïe. Ésaïe, chapitre 53, verset 7, « Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche. Pareil à un agneau qu'on mène à l'abattoir, à une brebis muette, devant ceux qui la tondent, il n'a pas ouvert la bouche. » Amen. Il n'a pas ouvert la bouche. Jésus ne cherche pas à s'échapper. Jésus ne cherche pas à se défendre. Jésus ne cherche pas à échapper à la condamnation. Et Pilate en est très étonné. Si nous risquions une condamnation, est-ce qu'on ne ferait pas tout ce qu'on peut pour essayer d'y échapper? Encore plus une condamnation par crucifixion, quelle chose terrible, quelle chose affreuse. Mais Jésus ne dit rien. On a l'impression qu'il est résigné, qu'il accepte son sort. Pilate avait pourtant reçu un avertissement concernant cette affaire. Un avertissement qui venait de sa femme. Il faut toujours écouter sa femme. Et Pilate, lui, il l'a pas écouté. Pas assez, en tout cas. Pendant qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui fit dire « N'aie rien à faire avec ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert dans un rêve à cause de lui. » Matthieu, chapitre 27, verset 19. Dieu avait parlé en songe à la femme de Pilate. Il lui avait révélé que Jésus était innocent. Et elle le fait dire à son mari. Cet avertissement, ça a dû impressionner Pilate. Ça a dû lui faire un certain effet, parce qu'en plus, ça ne vient pas de n'importe qui. Ce n'est pas un étranger, ce n'est pas un illuminé qui passe comme ça et qui lui dit « Oui, moi, écoute, j'ai eu un rêve, on m'a parlé, j'ai eu une révélation. » Non, c'est sa propre femme. Sa propre femme qui lui dit « Mais j'ai eu un rêve. Cet homme est juste, n'ai rien à faire avec lui. » Pilate, jusqu'au bout, il a le choix. Il a le choix de condamner ou pas Jésus. Et Pilate va entendre. Alors d'abord, il y a sa femme qui lui révèle cela. Cet homme est juste, n'ai rien à faire avec lui. Et Pilate va entendre que Jésus s'est déclaré fils de Dieu. Ça y est, enfin, les juifs, les religieux, ils lui donnent la véritable raison. Jean, chapitre 19, verset 7, les juifs lui répondirent, « Nous avons une loi, et d'après notre loi, il doit mourir parce qu'il s'est fait fils de Dieu. » Quand il entendit cette parole, Pilate eut très peur. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus, « D'où es-tu ? » Mais Jésus ne lui donna aucune réponse. On pourrait trouver étonnant que Jésus ne dise rien. On pourrait le lui reprocher, mais tout a déjà été dit. Tout a déjà été fait. Les miracles, il les a faits. Il n'a pas besoin de les répéter devant Hérode. Il l'a dit, il l'a proclamé qu'il était fils de Dieu. Il n'a pas besoin de le répéter en particulier devant Pilate. Pilate a peur maintenant. Pilate a peur. Et qu'est-ce qu'il fait? Il essaye de relâcher Jésus. C'est la Pâque et à chaque fête de la Pâque, eh bien, il y a pour coutume de relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, « Fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. » La réponse de la foule est unanime, ils parlent comme un seul homme. Et Pilate plaide encore la cause de Jésus, et nous l'avons lu, qu'est-ce qu'ils disent ?« Crucifie-le, crucifie-le » Voilà la réponse du peuple, des prêtres, des magistrats. Et Pilate insiste aussi dans l'autre sens pour essayer de ne rien avoir à faire, pour essayer de ne pas condamner Jésus. Il ne veut pas avoir du sang innocent sur les mains, Pilate. Alors lui, il insiste aussi dans l'autre sens. Pour la troisième fois, Pilate leur dit « Mais quel mal a-t-il fait? Je n'ai rien trouvé en lui qui mérite la mort. Je vais donc le relâcher après l'avoir fait fouetter. » Cependant, ils insistaient à grands cris, demandant qu'il soit crucifié, et leurs cris l'emportèrent. Avec ceux des chefs des prêtres, Pilate décida de leur accorder ce qu'ils demandaient. Luc chapitre 23, verset 22. Ça y est, Pilate a décidé. Ça y est, Pilate a pris sa décision. Pilate savait qu'il était innocent, mais les Juifs menacent d'en référer à l'empereur. Si tu le relâches, tu n'es pas l'ami de l'empereur. Tout homme qui se fait roi se déclare contre l'empereur. Ils ont des arguments, les Juifs. Nous prenons la responsabilité. Alors Pilate va se laver les mains. Ce geste est historique. Ce geste est fameux. Mais cela n'efface en rien sa culpabilité. Il ne peut pas s'en sortir comme ça. Il a bel et bien condamné un innocent. Il a bel et bien livré à la mort par crucifixion un innocent. Voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, Pilate prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit « Je suis innocent du sang de ce juste. C'est vous que cela regarde. » Et tout le peuple répondit « Que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. » Quelle folie, quelle phrase terrible, quelle parole bien imprudente, bien provocatrice. On sait, par tous les malheurs, toutes les souffrances par lesquelles sont passés ce peuple juif, ce peuple élu, quelles conséquences terribles pour eux et pour tous leurs enfants ont eu ces paroles. Si nous le laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. L'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'était pas pour la nation seulement, c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Jean chapitre 11, verset 48. Grâce à la mort de Christ, oui, ce texte est terrible. Oui, ce qui s'est passé est affreux. Mais c'est en même temps quelque chose de merveilleux. Parce que si Jésus n'était pas mort, nous n'aurions aucun moyen d'être réconciliés avec Dieu le Père. Si Jésus n'était pas mort, nous n'aurions aucune possibilité d'être pardonnés de nos péchés. Si Jésus n'était pas mort, nous serions condamnés à mort nous-mêmes, à une éternité sans Dieu en enfer. Alors merci, merci Jésus d'être mort sur la croix. Merci de ne pas avoir ouvert la bouche. Merci de ne pas avoir cherché à te défendre. Merci de ne pas avoir convaincu de cette façon, Hérode, Pilate, que tu avais des pouvoirs surnaturels et extraordinaires. Grâce à la mort de Christ, à sa résurrection, tous les Juifs, tous les païens qui acceptent ce sacrifice peuvent être réunis en un seul groupe, celui des enfants de Dieu. En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme, ni femme. Non, il n'y a plus que des enfants de Dieu. Des pécheurs rachetés par grâce. Des pécheurs rachetés par grâce. Et aujourd'hui, comme Hérode, comme Pilate en leur temps, aujourd'hui nous sommes placé devant un choix. placés devant une responsabilité. Et nous ne pouvons pas botter en touche. Nous ne pouvons pas nous en laver les mains. Nous ne pouvons pas transférer le problème à notre voisin. Non, nous sommes responsables pour nous-mêmes. Responsables de notre choix, de notre décision. Nous pouvons accepter ou refuser le sacrifice de Jésus. L'accepter, c'est recevoir le pardon et le salut. Le rejeter, c'est se mettre du côté des coupables, des bourreaux de Jésus. Qui est ton roi ? Qui est ton roi ? Est-ce toi ? Pour beaucoup aujourd'hui, c'est le moi, hein, le roi. Je fais ce que je veux, je suis libre. Qui es-tu pour me dire ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire ? Moi, je suis un homme libre. Je suis une femme libre. Nous sommes indépendants. Nous faisons ce que nous voulons. Qui est ton roi ? L'empereur ou Jésus ? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Encore un passage prophétique de la Bible. Psaume chapitre 22, verset 17. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Mais qui sont ces « ils » ? On l'a lu. Les soldats, ceux qui ont planté les clous, le centurion qui en a donné l'ordre, Pilate qui a pris la décision, les chefs religieux qui ont poussé Pilate à prendre cette décision, la foule présente qui a crié « crucifix, crucifix », qui a approuvé cela, qui a refusé la main tendue de Pilate, qui leur proposait simplement de le faire fouetter et de le relâcher. Qui c'est qui a crucifié Jésus ? Ils ont percé mes mains et mes pieds. Oui, tous ceux que je viens de citer sont coupables. Oui, ils sont coupables, mais ce ne sont pas les seuls. Mon ami, excuse-moi, mais je vais pointer un doigt accusateur vers toi. Il paraît que quand on pointe un doigt comme ça, il y en a plein qui sont vers nous aussi. Tu es responsable. Je suis responsable. Nous avons crucifié Jésus. C'est pour nous qu'il est mort. C'est pour toi qu'il est mort. C'est pour moi qu'il est mort. C'est pour Pilate qu'il est mort. C'est pour Caïphe qu'il est mort. C'est pour le centurion qu'il est mort. C'est pour les soldats qui l'ont cloué à la croix, ceux qui l'ont frappé, ceux qui l'ont revêtu de pourpre pour se moquer de lui, ceux qui lui ont mis la couronne d'épines. C'est pour tout cela qu'il est mort. Oui, tu peux dire, mais moi, j'y étais pas quand Jésus, il est mort. Moi, jamais j'aurais mis une couronne d'épines sur la tête de quelqu'un. Jamais j'aurais frappé un pauvre homme, un pauvre condamné. Mais à chaque fois que tu pèches, à chaque fois que tu fais quelque chose qui est contre la volonté de Dieu, eh bien tu le blesses. À chaque fois. Ésaïe, encore Ésaïe, chapitre 53, verset 5. Mais lui, il était blessé à cause de nos transgressions. C'est à cause de notre péché, à cause de notre transgression, brisé à cause de nos fautes. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Les coupables, ceux qui ont planté les clous, ceux qui ont frappé Jésus, mais ce sont tous les pécheurs. Paul dira qu'il était le premier de tous les pécheurs. Je suis un pécheur. Vous êtes des pécheurs, mais je suis un pécheur pardonné. Je suis un pécheur racheté par grâce, parce que Jésus est mort, parce que Jésus a accepté les coups, les clous. Il est mort à notre place, en paiement de nos péchés. Oui, cette mort est terrible, mais elle est merveilleuse. Parce qu'elle nous ouvre le pardon, parce qu'elle nous ouvre le chemin du ciel. Alors, merci Seigneur pour le sacrifice de la croix. Merci pour cette chose terrible. Merci parce que c'est ma porte de sortie. Merci parce que c'est le chemin de la rédemption pour moi, le chemin du pardon de mes péchés. Rappelez-vous que le Christ lui-même, tout innocent qu'il ait été, a souffert pour des coupables. Il est mort une fois pour toutes pour nos péchés, afin de nous réintroduire dans la communion avec Dieu. Son corps humain a été mis à mort, mais par l'Esprit, il a été ramené à la vie. Son corps humain a été mis à mort. Ça, c'est un mystère, hein. Jésus, Dieu fait homme, venu pour nous révéler le Père, pleinement Dieu et pleinement homme. Dieu peut-il mourir ? Bien sûr que non. Jésus était-il le Fils de Dieu ? Bien sûr que oui. Jésus-Christ est-il mort à la croix ? Oui. Oui, il est mort à la croix. Son corps humain est bel et bien mort à la croix. Il fallait que, pour que ce sacrifice soit valable, il fallait qu'il ait le même corps que nous. Oui, Jésus est bel et bien mort à la croix. Mais la mort n'a pu le retenir. Parce qu'il est aussi Dieu Tout-Puissant. Parce que Dieu le Père a agréé ce sacrifice. Il l'a accepté. Il a dit oui. J'accepte ce sacrifice en rançon de tous les péchés. J'accepte ce sacrifice pour en paiement de ma justice. Je l'accepte. Alors Jésus est ressuscité et il nous ouvre le chemin du ciel. Amen. Nous avons un choix à faire. Si nous acceptons Jésus comme sauveur, il nous sauve. Dieu nous reçoit. Si nous le rejetons, nous sommes perdus, maintenant et pour l'éternité. Acceptez-vous Jésus ou rejetez-le? Acceptez-vous Jésus ou est-ce que vous le rejetez? Comme ceux qui criaient « à mort, crucifie-le ». Qui est Jésus pour vous? Un imposteur ou le Fils de Dieu? Quelqu'un qui a échoué sur la croix, ou au contraire quelqu'un qui a remporté la victoire la plus extraordinaire, la plus éclatante sur la mort, sur le péché, sur toutes les autorités. Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est ressuscité pour notre justification. Et Jésus va revenir nous chercher. Amen. Amen. Elle est terrible cette histoire, hein, mais en même temps elle est merveilleuse, elle est pleine d'espoir. Quel amour Dieu a pour nous, quel amour Jésus a pour nous. Amen. Dieu vous aime, ne doutez jamais de cela, Dieu t'aime. Comment aurait-il pu supporter tout cela s'il ne t'aimait pas? Dieu t'aime. Il veut ton bonheur. Il veut ton salut. Amen.